8h40 minutes, vous écoutez Québec réveille la matinale de CKIA. Je suis en compagnie de Vania Wright-Larrain. Salut.
Allô, ma chérie, ça va bien?
Oui, ça va bien. Très heureuse de te retrouver.
Oui, enfin.
On va présenter, comme l'année passée, des chroniques du REPAC, oui. Le regroupement en éducation populaire, qui comprend plusieurs organismes. L'année passée, là, les gens défilaient au micro aux deux semaines. On a parlé de toutes sortes d'affaires. C'était vraiment trippant. Des belles gangs qui ont des missions vraiment essentielles. La saison 2 sera un peu différente.
Oui, on a décidé d'essayer de rafraîchir un peu, dans le fond, juste faire évoluer un peu la formule. Les groupes vont venir comme l'année passée. Vont alterner les chroniques, on va changer de groupe à chaque deux semaines. Sauf qu'on a demandé au groupe de venir expliquer un concept avec lequel ils travaillent. L'idée, c'est de faire des chroniques qui vont être plus facilement réutilisables dans nos milieux. On va les réécouter.
Intemporelles.
Exactement, un peu plus intemporelles. On va quand même en profiter pour rapidement présenter c'est quoi les groupes puis qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Mais le centre, le cœur de la chronique sera un concept, dans le fond, qu'on va essayer d'expliquer dans un esprit d'éducation populaire, dans un esprit de comme partage des connaissances.
Puis ça fait bien du sens.
Ça fait du sens avec notre chronique, disons.
Exactement. On parle de groupes comme, je vais en nommer quelques-uns, ça va peut-être sonner une cloche aux auditeurs et aux auditrices. On parle de Action Chômage de Québec, notamment. Ça veut pas dire qu'ils vont passer cette année, là, mais je les nomme, ils font partie du REPAC.
On construit le calendrier en ce moment.
Tu me corriges si je me trompe. L'Association pour la défense des droits sociaux de Québec métropolitain. On a l'Association de la défense des droits sociaux de la Rive-Sud. À tout lire, bon, il y en a parmi ceux-ci qui vont peut-être passer. Des centres femmes, il y en a plusieurs. Nous faisons partie, c'est qu'il y a du REPAC. On se fera pas une chronique dans notre propre émission, ça serait un peu incestueux.
Ben, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Le Compop, comme
on toutes les membres pareils.
C'est vrai, Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, entre autres. Donc, c'est ce genre d'organisation là qui font partie du REPAC, l'organisation Point de repère aussi. Tu veux donner des exemples pas des exemples, mais tu veux nous parler du point de bascule climatique en lien avec une action qui va avoir lieu là bientôt.
Ben absolument. En fait, on va parler des points de basculement climatique. Petite introduction, on s'en va vers une grosse mobilisation. Ça fait quelques années qu'on travaille sur la justice sociale et la justice climatique, les liens entre la crise climatique et les inégalités sociales, dans le fond. Mais on travaille aussi beaucoup là actuellement à essayer de relancer un peu le mouvement de mobilisation, le remettre de l'avant, puis ramener l'urgence climatique de l'avant-plan, parce que ça s'est un peu effrité, faut pas se le cacher, pendant la pandémie. On commence à en parler beaucoup comme une opportunité économique, comme ça. Puis on est en train d'un peu cacher, dans le fond, le fait que l'urgence est de plus en plus grande. Puis en campagne électorale, ça ressort pas bien que l'urgence, c'est quelque chose qui peut se compter en années maintenant et pas en dizaines ou en cinquantaine d'années. Le point de basculement, c'est exactement ça que ça va nous apprendre, dans le fond. Les points de basculement, ça a été étudié là par les climatologues. Il y a quelques années, il en comptait 9. Maintenant, ils sont rendus à 16. Je vous explique d'abord c'est quoi un point de basculement climatique pour qu'on se comprenne bien, puis c'est un peu ça le but de la chronique. Un point de basculement climatique, c'est quand un système, il y a un changement, qui peut être un changement graduel, mais qui atteint un certain point qui est irréversible. Donc, admettons qu'on parle de, je vais vous donner l'exemple un exemple bien simple, là. Excusez-moi, le pergélisol, un autre mot compliqué. Le pergélisol, c'est le sol dans le nord qui dégèle jamais.
Mm-hmm.
Pourquoi ils ont inventé ce mot-là que personne ne comprend, mais c'est si simple de dire le sol.
Permanent gélisol.
C'est ça. Voilà. Le sol gelé de façon permanente.
Oui.
Ben, voilà. Quand ça dégèle, cette affaire-là, à cause des réchauffements climatiques, ça libère énormément de méthane, ce qui va accélérer le réchauffement climatique. Donc, le phénomène, c'est le dégel du pergélisol, mais le phénomène lui-même est la cause et la conséquence
des réchauffements.
Du réchauffement.
Oui.
Donc, après, quand le pergélisol décide de dégeler, ben le retour en arrière est d'autant plus difficile. Puis tant qu'il n'y aura pas libéré tout le méthane qu'il y a dans le pergélisol, ça va être presque impossible de retrouver un nouvel équilibre. Dans le fond, le point de basculement va arrêter quand on va arriver à un nouvel équilibre. Le nouvel équilibre, je vous ferai pas de cachette, c'est une catastrophe pour toute la planète au complet.
OK, on recommence à zéro. Erase, reset.
Pratiquement, la vie sur Terre est menacée par ce genre de changement.
OK, on peut pas juste se remettre ça dans le congélateur, là, comme
exactement,
un bac à glaçons.
Exactement. Puis je voulais avoir une petite métaphore pour expliquer c'est quoi un point de basculement aussi. Un point de basculement, c'est, imagine-toi, le 20 février, tu sors de chez vous, il y a eu du verglas. Le moment que les pieds partent, là, c'est un moment-là, quoi que tu fasses, tu auras beau essayer de t'accrocher à l'air ou battre des ailes, il va arrêter seulement quand tu vas être rendu le dos sur la glace. dans le fond, on peut rien faire pour arrêter le mouvement. Mmh. C'est hors un peu de nos capacités humaines. Bon, global. Alors là, ça, c'est très inquiétant. Puis pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y en a 5 de ces points de basculement-là qui sont soit déjà atteints, parce que savoir quand ça se passe, c'est pas évident. Ils sont soit déjà atteints, soit ils vont être atteints en termes d'années. Là. On parle plus de dans 15-20 ans. Okay. On parle en termes d'années. Je vous donne 2 exemples de c'est quoi des points de basculement terribles. Ben, je vous ai déjà parlé du pergélisol, j'en reparlerai pas. Je vais vous donner le 2e exemple qui porte vraiment bien son nom. C'est le glacier de l'apocalypse. Je sais pas si vous avez entendu ça, ça commence à sortir dans les médias.
Le glacier de l'apocalypse.
Ça frappe l'imaginaire, on s'entend. Ouais. Ce glacier-là, c'est un immense bloc de glace de 120 km de large par 600 km de long, 3 km de profondeur, okay, qui est accroché à la calotte antarctique. Son vrai nom, c'est le glacier Thwaites. Alors, ce glacier-là est fissuré, c'est-à-dire qu'il pourrait s'enfoncer dans l'océan graduellement d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans.
Oh my God!
C'est sur le
Vanilla.
Point de se passer.
L'éco-anxiété vient de me...
Je voulais le dire en avertissement.
C'est correct.
Les portes de sortie sont à l'arrière, sur le côté en avant.
OK, et donc là...
Ben, si le glacier Thwaites décide de s'effondrer dans l'océan, on parle d'une augmentation du niveau de la mer en quelques années de 1 mètre, voire plus, du niveau de la mer globale.
Inondation, les océans, donc.
Ben, on parle de Manhattan inondé, on parle de Baie-Saint-Paul rayé de la carte, on parle d'une catastrophe là, sans commune mesure.
Oui. Québec est quand même près du niveau du fleuve.
Ben, Québec,
pas, en haut du cap moins, mais la base ville...
Puis on s'entend que c'est pas simplement d'être sous l'eau, mais c'est aussi l'érosion que l'augmentation du niveau de la mer va créer. Puis bon, ça va créer des déplacements de population de centaines de millions de personnes à l'échelle de la planète.
Ouais. Adieu Limoilou, adieu Saint-Roch,
adieu nos petits problèmes actuels. Quant au mouvement des populations sur la planète, là, ça va être quelque chose d'énorme. Je voulais finir par soit une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que je trouve que c'est important d'en avoir.
Moi, je vois ton petit bonhomme qui bat des ailes, là, puis qui penche par en bas, puis qui se ramasse sur les fesses, il va tout se relever.
Tu préfères-tu la bonne ou la mauvaise?
La bonne.
OK. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques travaillent actuellement sur la théorie des points de basculement au point de basculement positif. C'est-à-dire les actions qu'on peut prendre comme collectivité humaine pour provoquer le même genre de mouvement que les points de basculement, mais dans l'autre sens. Je te donne un exemple. Admettons qu'on décide en quelques années d'arrêter l'usage de la voiture à essence. Ça, l'impact sur les émissions des gaz à effet de serre est tellement impressionnant et grand, si ça se fait à l'échelle globale, ben, qu'on provoque un mouvement, mais dans l'autre direction. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'étude sur les points de basculement peut nous amener à cibler, dans le fond, nos interventions en termes de diminution des GES, puis ben, peut-être, à tout le moins, ralentir le rythme des conséquences des changements climatiques.
OK.
Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'un point de basculement peut entraîner un autre point de basculement qui peut entraîner un autre point de basculement.
Donc, là, il y en avait 16,
c'est ça que je dis.
Il pourrait
justement
y en avoir plus.
Ben, il pourrait y en avoir plus, puis chacun de ces points de basculement-là sont interreliés, on parle d'un système global.
Ouais.
Donc, quand la calotte glaciaire de l'Antarctique décide de s'enfoncer dans l'océan, ou bien le Groenland, la même chose, ben, le niveau d'eau va changer complètement le système climatique, puis va provoquer probablement une accélération de d'autres points de basculement.
Ouais. Tu parlais d'érosion.
D'érosion, de libération des méthanes. Imaginez les pergélisols qui est pas élevé, qui est proche du niveau de la mer. Si la mer s'avance sur ces terres-là, ben ça a le même impact de faire fondre le pergélisol puis d'accélérer dans le fond le réchauffement.
Oh, Caroline Devine. Bon, c'est ouais. Okay.
Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait?
Il y a deux choses qu'on peut faire. Là. On peut faire comme beaucoup de politiciens actuellement, puis faire semblant que ça va bien aller, puis proposer des grands projets de société. C'est le fun, mais prendre pas en considération la réelle urgence climatique, ou bien mettre ça sur la faute des autres, ben, ça nous aide pas à régler ce problème.
Les pailles en carton, ça, non?
Ben, c'est des petits efforts, mais bon, espérons que les scientifiques nous aident à mieux cibler puis qu'on prenne des grandes décisions comme arrêter les voitures à essence, par exemple. Mais bon, ce qu'il faut faire aussi, c'est se mobiliser parce que, clairement, malgré toutes les immenses mobilisations qu'il y a eu partout sur la planète sur le climat, le message n'est pas passé aux élites politiques actuellement, puis ils prennent pas le problème suffisamment au sérieux. Probablement pour gagner une élection,
ben, ça
pour séduire
bien,
un électorat, on peut comprendre, sauf que L'iceberg s'en vient.
Mais en même temps, la population semble bien au courant de ce qui se passe, puisque nos trois candidats du PQ tantôt nous disaient, peut-être qu'ils savent à qui ils s'adressent en venant ici aussi, là, je dis ça de même, si on fait leur devoir, mais ils nous disaient que la plupart des gens qu'ils rencontrent sur le terrain dans ces élections-ci leur disent que l'enjeu principal pour eux, c'est l'environnement. Ouais. C'est sûr qu'ils proviennent aussi de circonscriptions du centre-ville de Québec qui sont quand même sensibilisés déjà à ces enjeux, mais semblerait qu'au moins une partie de la population considère que c'est l'enjeu majeur.
Ben, c'est ce qu'on va essayer de démontrer vendredi lors de la grande manifestation qui va avoir lieu dans, je pense qu'on est rendu à 11 régions au Québec. Il va y avoir des mobilisations partout. Il y a des votes de grève dans plusieurs associations étudiantes. Il y a des groupes communautaires qui vont cesser leurs activités pour se mobiliser. La manifestation va partir à Québec, pour celle-là de Québec, va partir à 13h du Parc des Braves, puis va se diriger vers l'Assemblée nationale. Si vous voulez des détails, tout ça est sur, évidemment, les réseaux sociaux.
Oui.
Super facile d'accès. On pourra poster les liens après la chronique. Fait que, ben, on invite tout le monde, là, vraiment, à, comme, caler malade, partez en courant
c'est ça,
de votre
job,
venez manifester.
C'est une grève pour
montrer,
le climat.
Exact.
Voilà.
Puis il faut absolument, puis c'est un appel qui a été lancé à l'échelle de la planète.
Oui. Je me souviens, il y a 2 ans, ou je pense qu'il y a 3 ans, là, les étudiants faisaient grève pour venir rejoindre cette fameuse manifestation.
Le cégep de Limoilou a voté pour la grève hier.
Oui.
L'école Jean-François Perrault.
Oui, François Perrault.
Ils sont en grève aussi. La gang des jeunes du secondaire va venir nous rejoindre.
J'avais motivé mon fils, moi, à l'époque, qui n'avait pas, il avait pas eu de vote de grève à son école officiellement, mais je m'étais dit, oh. Moi, le motiver pour ça, ça vaut à peine.
Puis qu'est-ce qu'il faut rajouter, c'est que cet événement-là, le 23, c'est pas l'aboutissement, c'est un coup de semonce. La mobilisation va se poursuivre toute l'année. Puis on vise d'autres journées, d'autres mobilisations massives, à la fois au mois de février. Et puis, il y a un rendez-vous qu'il va pas falloir manquer, c'est le 22 avril 2023. Là, on va s'arranger pour qu'il y ait bien, bien du monde dans la ville.
D'accord. Merci beaucoup, Vania
Wright-Larin
du REPAC pour l'explication concernant ces points de bascule. On se voit dans la rue le 23.
Excellent.
Bye-bye.
Bonne journée.